Je vais vous demander de vous présenter les uns après les autres.
Pascal Balu, ensemble paroissial de Tarbes-Est, Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette.
Françoise Marcos, très intéressée par tout ce qui touche la fin de vie, puisque depuis que je suis à la retraite, je me suis impliquée dans l'association SP2, soins palliatifs, et je fais des accompagnements, voilà, bénévoles.
Alors Bruno Morin, donc avec le même ensemble Saint-Jean, Sainte-Thérèse et Sainte-Bernadette. Et je ne fais pas d'accompagnement dans le cadre des soins palliatifs, mais je suis accompagnateur par ailleurs. Et donc je vois aussi beaucoup de personnes qui se posent des questions sur cette période qui pour certaines se rapproche.
Françoise Simonian, même ensemble paroissial, pastoral, pardon, pour être précise. Et j'ai été pendant un certain nombre d'années, j'ai fait partie de l'équipe d'aumônerie de la clinique Pyrénées-Bigorre et en particulier de l'unité de soins palliatifs.
Voilà, donc tous les quatre, vous êtes aujourd'hui dans cette émission pour nous parler d'une démarche que vous avez menée. Alors une démarche qui émane d'un souhait de l'ensemble paroissial Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette en centre-ville de Tarbes, d'informer largement sur le projet de loi sur la fin de vie. C'est une question qui vous préoccupe. Vous, en tant que chrétien et paroissien de cet ensemble Saint-Jean, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette, mais vous avez voulu depuis quelques mois eh bien, sensibiliser le grand public à ces questions sur la fin de vie. Alors, on a beaucoup parlé des soins palliatifs et on va en parler encore avec vous aujourd'hui, mais la fin de vie, ça n'est pas que le sujet des soins palliatifs, c'est les soins palliatifs et beaucoup d'autres choses. On va d'abord peut-être faire un rappel de ce que vous avez mené depuis plusieurs mois en centre-ville de Tarbes avec cet ensemble paroissial, cet ensemble pastoral, ce groupe de réflexion dont vous êtes membre et que vous avez constitué pour organiser diverses rencontres pour sensibiliser justement le grand public. Est-ce que vous pouvez, Pascal Palu, nous rappeler un petit peu ce que vous avez lancé, ce que vous avez mené depuis plusieurs mois?
Oui, depuis plusieurs mois, on est parti, en fait, ça s'inscrit dans la démarche synodale, qui était la question essentielle, c'était quelle église nous voulons nous construire demain. Et donc, tous les sujets, effectivement, qui touchent à notre foi chrétienne, mais plus largement à la vie en société, nous avons essayé de les aborder, voilà. Et donc, en particulier, tout ce qui est... changement climatique, d'autres aspects qui touchent effectivement la société plus généralement. Et nous avons souhaité, dans le cadre de la démarche qui était suivie, enfin qui fonctionnait avec la démarche qui était pour prolonger la loi Claeys-Leonetti de 2016. D'élargir plus largement le cadre en sortant simplement de notre ensemble paroissial pour nous poser la question sur la fin de vie. Quelle est la position, quelle est notre position, quelle discussion nous pouvons avoir sur la fin de vie?
Alors ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de la fin de vie, d'abord ça concerne tout le monde, parce que tout le monde y sera bien sûr confronté pour soi-même, mais tout le monde est aussi confronté à la fin de vie d'un proche, d'un ami, d'un membre de la famille. Donc c'est vraiment une question qui touche évidemment très largement et pas seulement bien sûr les chrétiens du centre-ville de Tarbes, même si c'est vous qui avez mené ce travail d'information et de sensibilisation. Je dis d'information parce que je vous ai entendu dire en préparant cet entretien qu'il y avait encore beaucoup de personnes, hélas, qui n'étaient pas bien informées sur ce qu'était la fin de vie et sur ce que la loi aujourd'hui dit de la fin de vie, sur la manière dont la loi aujourd'hui encadre la fin de vie. La loi Claeys-Leonetti que vous évoquez, Pascal Palu, en fait, aujourd'hui, elle est encore très mal connue. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le cadre de cette loi? Qu'est-ce que la loi aujourd'hui dit au sujet de la fin de vie? Françoise Simonian.
Alors, les trois points essentiels de la loi Claeys-Leonetti, c'est d'une part d'insister sur ce qu'on appelle les directives anticipées. C'est quelque chose qui est très peu pratiqué actuellement. Les médecins, par exemple, n'ont aucune formation par rapport à ça, et le personnel soignant peu. Donc, ça veut dire pour tout un chacun, pour nous, dire sur un document le souhait que nous avons pour notre fin de vie. Donc, je vous dis, je crois même pas 20%, 18% de personnes à peine rédigent des directives anticipées. Dans le sens de ces directives anticipées, il y a aussi la désignation d'une personne de confiance, c'est-à-dire cette personne qui, si on n'est plus en capacité de dire nos choix et notre décision, pourra le manifester. Et il est fortement conseillé que ce soit quelqu'un qui soit un peu extérieur, notamment au milieu proche ou au milieu familial, pour avoir ce recul-là aussi. Voilà. C'est pas une règle générale, mais voilà, on y est un petit peu attentif. Et le troisième point, le plus essentiel, c'est l'insistance sur les soins palliatifs, le développement au plus près des malades de tout ce qui concerne les soins palliatifs. Ça veut dire autant du personnel formé, des unités spécialisées, des unités mobiles aussi qui se déplacent, et aussi des équipes de bénévoles comme Françoise qui accompagnent les personnes et les familles aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà en gros la loi Claeys-Leonetti qui est depuis 2016, a été votée en 2016 et qui est loin d'être, très très loin d'être appliquée et d'avoir surtout les moyens aussi pour pouvoir fonctionner.
Vous voulez compléter avec votre expérience, vous qui êtes donc bénévole auprès des personnes en soins palliatifs.
Non, je ne vais pas parler de mon expérience. Je voudrais simplement compléter sur cette loi Claeys-Leonetti qui est la première à mettre l'accent sur l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Ça, c'est très important. C'est un cadre donné par la loi qui est quand même hyper important. Et effectivement, on pouvait constater autrefois, dans certains cas, les médecins sont formés essentiellement pour soigner. Un médecin, consciencieusement, veut maintenir la vie coûte que coûte. Or, parfois, on arrive à des situations très, très, très délicates et très compliquées. Et la loi a permis justement aux patients d'exprimer ce souhait de non-acharnement thérapeutique. Et les directives anticipées, c'est en ça que la loi était tout à fait intéressante, les directives anticipées s'imposent aux médecins. Voilà. Et puis, alors, un point très, très important dans la loi Claeys-Leonetti, c'est que lorsque... il n'y a plus de possibilité d'améliorer la situation thérapeutique du malade, on peut prendre la décision d'une sédation profonde et continue. Et cette décision-là est une décision qui est prise collégialement et qui ne doit pas être à l'encontre des souhaits du patient. C'est la première fois que la loi en France donne la priorité aux volontés du patient. Et s'il n'est pas en capacité de s'exprimer, il a eu la possibilité éventuellement de l'écrire. Et puis la personne de confiance va parler en son nom. C'est ça qui était très important et qui malheureusement est très peu connu. Cette loi est en fait très riche pour accompagner les fins de vie. Et en fait, elle est très peu connue et très mal appliquée.
Alors justement... si cette loi, elle existe déjà et qu'elle est très complète, pourquoi en arriver à aujourd'hui ce débat ? Est-ce que le problème n'est pas justement de mettre les moyens pour faire en sorte que la loi Claeys-Leonetti soit vraiment appliquée ? Est-ce que le problème n'est pas un problème de moyens, en fait, tout simplement ? Alors, il faut quand même noter qu'il y a un tiers des départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
Merci. Alors pour entrer dans cette question-là que vous nous posez, peut-être une petite transition, c'est de voir ce qui s'est passé dans chacun des 5 groupes, puisqu'il y en a eu 5, à peu près 7 à 8 participants, au cours de ces échanges, 2 à 3 rencontres. Il y a eu cette dimension d'information, et la loi Claeys-Leonetti en est un très bon exemple, mais il s'est passé également autre chose. La finalité, c'est bien sûr d'arriver à ce que les groupes parviennent à exprimer quelque chose sur ce sujet qui nous concerne au premier chef. Mais quelque chose que j'ai observé qui m'a semblé très très riche, c'est qu'à partir du moment où la confiance s'est établie dans chacun des petits groupes, chacune et chacun a exprimé des réalités familiales, souvent douloureuses, difficiles, et où on voyait qu'on n'était pas sur une parole de généralité, mais sur une parole inscrite au cœur de nos vies. Ça, c'était effectivement très important. Et parmi ces choses qui étaient mentionnées comme importantes, c'était parfois la souffrance ressentie par tel ou tel parce que un proche, un parent, une maman, etc., n'avait pas pu avoir accès à des soins palliatifs comme il aurait été souhaitable que ce soit le cas. Alors vous rappeliez le chiffre, il y a à peu près 25 ou 26 départements qui n'ont pas de service dédié aux soins palliatifs. Le nôtre en avait un à la clinique de l'Ormeau. Il y a des lits qui existent dans plusieurs lieux de notre département, à Bagnères-de-Bigorre, à l'hôpital de Tarbes, à la clinique de l'Ormeau, à Lannemezan. Donc deux ou trois lits, parfois un tout petit peu plus. Mais ce qui manque peut-être, c'est d'arriver à avoir un véritable service structuré qui donne des impulsions. Les impulsions, c'est comment les soignants, comment les familles peuvent avoir auprès d'eux, auprès d'elles, eh bien, des personnes qui montrent tout ce que la loi Clay-Leonetti peut apporter en termes, comme Françoise vient de le rappeler à l'instant, de ces moments qui se rapprochent de l'issue finale. Alors c'est là où il y a quelque chose où nous souhaitons attirer l'attention des parlementaires, c'est effectivement de se dire, avant peut-être même d'aller plus loin dans des évolutions législatives qui sont peut-être nécessaires ou qui correspondent à des attentes sociétales, ce serait déjà d'aller le plus possible dans l'application de ce qui est existant et qui est un système qui a sa valeur et sa richesse.
Alors justement, vous parlez des parlementaires. Votre travail ne s'est pas arrêté à la réflexion. Vous avez voulu vraiment, après avoir fait ce travail de sensibiliser le grand public, interpeller les parlementaires. Et ça, j'aimerais qu'on en parle parce que vous avez donc rédigé une conclusion hein, de vos réflexions avec en expliquant ce que vous aviez constaté et ce que vous souhaitiez. Et ce document, vous le remettez aux parlementaires de notre département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche de ne pas s'arrêter à la réflexion, mais vraiment d'aller au-delà ?
Oui, c'est une démarche qui s'est imposée très rapidement au groupe, en se disant, voilà, on réfléchit, mais c'est aussi, voilà, en tant que citoyen, citoyen engagé, qu'on souhaitait, puisque c'est quand même la représentation nationale qui va être amenée à voter s'il y a une proposition une nouvelle proposition de loi. Donc on a souhaité pouvoir rencontrer les différents parlementaires du département, c'est-à-dire les deux sénatrices et le député et la députée. Et donc c'est pour ça que nous avons dans un premier temps repris les travaux de tous les petits groupes et qu'on en a fait une synthèse que nous avons tous partagée et que nous avons pris rendez-vous donc avec ces quatre personnes et que nous souhaitons leur remettre ce document et partager avec eux sur ce qui le contenu de ce document et surtout voilà et aussi tous les leur faire toucher du doigt la richesse des échanges qu'on a eu qui s'ouvre largement à d'autres réalités que notre simple ensemble pastoral. Voilà.
Alors on voit que la convention citoyenne qui a rassemblé 184 personnes qui ont travaillé pendant plusieurs mois et qui ont rendu la synthèse de leur réflexion et de leurs travaux à la fin du mois de mars, cette convention citoyenne, sans en avoir été membre officiellement, finalement ce que vous avez mené ici à Tarbes fait aussi partie de ce travail, j'allais dire même de cette responsabilité citoyenne. Est-ce que vous voyez les choses comme ça, peut-être Bruno Morin, peut-être, sur ça?
Oui, je crois que la concomitance des travaux a quelque chose d'assez significatif, c'est-à-dire que par rapport à un sujet de société aussi important, il était important qu'à tous les niveaux géographiques, il y ait un travail de ce type-là qui soit fait nationalement très très bien, bien sûr. On a pu suivre un certain nombre d'éléments qui ont déjà été l'objet de débats et surtout d'options de la part de la Convention, mais qu'il y ait des choses aussi à une échelle plus locale, comme le niveau départemental, est certainement quelque chose de très favorable. Parce que, au fond, ce qui importe, c'est de ne pas affirmer des choses de manière
trop dogmatique. Il faut avoir beaucoup de nuances dans ce qui est dit et ce que la Convention a essayé de faire, et de voir qu'à la fois, nous avons bien sûr à cœur de dire tout ce qui va dans le sens de l'application pleine et entière de l'actuelle législation nous semble quelque chose de bon et que ça a besoin d'être peut-être évalué davantage, même si récemment, autour du député Falorni, il y a pas mal de choses qui ont été entreprises dans ce cadre-là. Mais en s'adressant à nos parlementaires, de voir aussi qu'il faut qu'une loi soit très longuement discutée au sein du Parlement pour voir tous les enjeux qui se posent. Et que la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est quelque chose qui mérite à la fois du recul, de l'écoute des réalités de fin de vie qui sont souvent très douloureuses, mais aussi de se dire, au fond, mais qu'est-ce qu'en termes de valeur de société cela signifie et vers quoi on s'engage? Et pour nous, plus la vie est présente jusque dans les derniers moments, sachant qu'ils sont parfois très difficiles, plus il y a quelque chose qui correspond à ce que l'on aurait envie de faire passer. Alors après, concrètement, ben, effectivement, en s'adressant à eux, on a envie de leur dire, mais il faudrait que notre unité de soins palliatifs redevienne une unité à pleine et entière dans notre département, même s'il y a beaucoup de personnes actives comme Françoise dans notre groupe. Ça va au-delà. C'est de revoir dans notre système de santé, au niveau des hôpitaux, cliniques et des soignants en général, de voir qu'au fond, il y a une réflexion autour du soin, le care, disent les Anglais, pour que les démarches de ce type-là soient intégrées dans les démarches de soins. Et là, il y a quelque chose qui passe pour cela, par une formation accrue des soignants en ce domaine.
Voilà, donc qui dit formation, dit encore une fois la question des moyens aussi qui sont mis à disposition pour former les soignants et pour mettre à disposition des équipements qui sont nécessaires pour accompagner dignement la fin de vie. C'est vraiment l'enjeu. Merci beaucoup à tous les quatre pour tous ces éléments, toutes ces réponses. Alors pour aller plus loin, je rappelle qu'il y a une table ronde, la fin de vie en question, organisée mardi 9 mai prochain de 19h à 21h. Ce sera à la Bourse du Travail à Tarbes, une table ronde qui réunira quatre intervenants experts, le docteur Marie-Pierre Safon, médecin diplômé en douleurs et soins palliatifs, madame Cécile Pépion, diplômée en accompagnement et soins palliatifs, madame Paulette Ferreira, cadre supérieur du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, et monseigneur Jean-Marc Mica, donc évêque de Tarbes et Lourdes. Tous les quatre informeront, échangeront, débattront donc lors de cette table ronde qui pourra aussi permettre au plus grand nombre de poser des questions et d'interpeller ces intervenants sur cette question de la fin de vie. Un grand merci à tous les quatre.